Pour introduire le sujet du Dvar Malchut sur les parashot Acharimot Kedushim, il est bien ici de se rappeler d'un enseignement d'Almor HaZaken, extrait du Sefer HaLikutim. Alors, le Sefer HaLikutim, c'est un ensemble de livres qui est conçu, la table des matières de ce livre, c'est chaque lettre de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire qu'à la lettre Aleph, il y a toute une série de noms qui est donnée, des noms qui commencent par la lettre Aleph, et le Tzemar Tzedek va expliquer, va donner des explications sur chacun de ces noms. Alors à la lettre Yud, par exemple, le mot Yona, le Yona, ça signifie en hébreu la colombe, le Tzemar Tzedek va expliquer qu'est-ce que ça signifie, le mot Yona, la colombe. Alors il va rappeler un verset du Cantique des Cantiques, où il est dit qu'il y a une colombe qui est cachée entre les fentes du rocher. Cette colombe qui est cachée entre les fentes, cette colombe-là, elle représente l'âme divine. Pourquoi ? Parce que, comme on le sait dans le livre des prophètes, il est écrit que Yona, le prophète Yona, il est lui-même, il a été englouti par un énorme poisson, et cette image du prophète Yona qui est englouti dans ce poisson-là, ça représente l'âme divine elle-même qui s'habille dans un corps matériel, qui s'habille dans une âme animale, qui est confinée dans un corps, qui est prisonnière du corps, comme on le voit souvent dans la Chassidoute, pour expliquer l'exil de l'âme. L'âme divine qui s'habille dans l'âme animale, il y a le Nigoun par exemple de Shamil qui raconte l'histoire d'un roi qui a été fait prisonnier. Cette idée d'être en prison, cette idée de l'âme qui est confinée dans un corps, elle rappelle directement l'image du prophète Yona qui a été avalé par ce poisson et qui est prisonnier de cet énorme poisson. Et ça, c'est le sens de la colombe qui est nichée, qui se cache entre les fentes du rocher. Cette colombe-là, elle représente donc l'âme divine. Alors, cette colombe, l'âme divine, donc, elle qui est prisonnière du corps, tout le travail d'un juif, c'est justement de la libérer de cet exil. Et pour ça, on est vraiment dans une période qui est propice à ce travail, puisque le conte de l'Homère représente le fait de purifier l'âme animale, de la raffiner et de la transformer. Alors, cet exil-là, l'exil que représente le corps humain, cet exil-là, on peut l'apparenter au mot « gola », puisque « gola », ça signifie « l'exil ». Et le mot « gola » lui-même, qui représente l'exil, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que si on ajoute la lettre « aleph » à ce mot, on obtient le mot « geoula ». Alors, le rabbi pose une question. Il dit « comment se fait-il que, en réalité, le nom de chaque chose, il contient son contenu profond, il exprime son contenu profond. Ça veut dire que si on veut saisir le contenu profond d'une chose, on doit méditer à son nom, on doit réfléchir à son nom. Alors comment est-il possible que le mot « gola » et le mot « geoula » qui sont vraiment très proches, puisqu'il y a une seule lettre qui les sépare, si on ajoute la lettre « aleph » au mot « gola », on obtient le mot « geoula ». Donc comment ça se fait que ces deux noms qui sont très proches, ils peuvent signifier tous les deux la délivrance, puisqu'on sait que « gola » ça veut dire l'exil, et Geoula, c'est la délivrance. Or, comme la proximité de ces deux noms, elle nous fait penser qu'en réalité, ils expriment la même chose. Et la réponse, elle est toute simple. La réponse, elle est que l'exil lui-même, l'exil que représente le mot Gola, l'obscurité du corps, l'obscurité de ce monde matériel, le monde lui-même, on peut aussi l'apparenter à ce nom-là, Gola. Pourquoi ? Parce que il reçoit sa vitalité de Klipat Noga. Le monde, il reçoit sa vitalité finalement de l'âme animale, si on peut dire, qui va insuffler une âme animale, qui va insuffler une vitalité. Cette vitalité qui vient des Klipat Noga, puisque l'âme animale de l'homme et la vitalité qui reçoit ce monde, ils la reçoivent tous les deux de Klipat Noga. Donc c'est pas un monde de pureté, au contraire. L'âme elle-même, elle est pure, comme on le dit dans la prière Elokai Neshama chez la Tatabi. L'âme que tu m'as donnée est pure. Ça veut dire qu'elle descend même, elle s'inscrit même dans le monde d'Atsilut, mais elle va descendre dans un monde qui est le contraire de la pureté. Donc ce monde qui est le contraire de la pureté, c'est Gola, c'est l'exil, c'est le corps de ce monde. Et donc, dans ce monde-là, il est donné la possibilité à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Donc, l'exil lui-même, on voit ici cet exil dans lequel chaque homme vit. Cet exil-là, en réalité, le mot Gola, donc, il est très proche du mot Geoula. Alors, pour quelle raison? La réponse, elle est que finalement, on voit très bien ici que l'exil fait partie de la délivrance. En quel sens? Ça signifie que c'est précisément quand l'âme descend dans un corps matériel qu'elle peut connaître l'élévation à un niveau supérieur de l'endroit d'où elle vient. Ça veut dire que c'est précisément en descendant dans ce monde matériel et dans ce monde qui est le plus bas de tous les mondes qu'on peut révéler l'essence divine. Ça, c'est la mission de chaque juif. La mission de chaque juif, c'est de faire une demeure pour Dieu dans ce monde-là. Ce monde-là, il doit devenir une demeure pour l'essence de Dieu. Et c'est précisément dans ce monde-là qu'on peut parvenir à cela. Ça veut dire que c'est précisément les niveaux les plus bas qui peuvent être élevés à un niveau supérieur, qui peuvent dévoiler l'essence divine de, vraiment dans ce monde-là, dans ce monde matériel. Alors l'exemple qu'on pourrait donner, c'est un exemple que le rabbi il a donné dans le Dvar Malchut sur la parasha de Shmot, à propos de Elazar ben Azaria. Quand il est devenu prince d'Israël, la première chose qu'il a faite, c'est d'ouvrir les portes de la yeshiva à tous ceux qui voulaient étudier la Torah, contrairement à son prédécesseur Rabban Gamliel. Il a désiré en fait d'élever les niveaux les plus bas. Ça s'accorde avec l'enseignement du Baal Shem Tov qui dit que on doit vraiment diffuser les sources de la chassidoute à l'extérieur. L'extérieur, ça désigne les niveaux les plus bas, ça désigne donc l'exil, ça désigne les niveaux les plus inférieurs, comme par exemple un juif qui n'est pas encore un érudit, et bien précisément ce juif-là, il doit être touché par la Torah. Précisément ce juif-là, il est aussi, au même titre qu'un tzaddik, il possède un lien avec l'essence divine, puisque l'essence de l'âme de chaque juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Et ça, il n'y a aucune différence entre un juif qui est juste, un érudit, et un juif simple, un juif qui n'a pas encore étudié la Torah. Donc on voit très bien que le lien de l'âme de chaque juif avec l'essence divine, il est là, mais seulement il faut le dévoiler. Il est caché dans l'exil, il se cache dans la réalité. Donc quand ça signifie quoi finalement d'ajouter le mot, la lettre Aleph au mot Gola, ça signifie révéler ce lien qui existe, révéler cette réalité qui se cache vraiment et qu'on doit dévoiler, et c'est par ce dévoilement, c'est donc en introduisant la lettre Aleph, en introduisant le divin, en permettant par exemple à ce juif d'étudier la Torah, qu'on va faire en sorte que l'exil lui-même, ce qui nous apparaît comme l'exil, en levant le voile de l'obscurité de l'exil, on révèle en réalité la réalité véritable de chaque chose. Et donc, chaque chose de l'exil peut être élevée, et rien ne doit être épargné. Donc on comprend vraiment la signification de ce qu'a dit le Machiav au Baal Shem Tov quand il lui a dit « quand tes sources se répandront à l'extérieur », ça signifie d'introduire le divin, représenté par la lettre Aleph, dans tous les sujets de ce monde. Ça s'accorde avec l'idée que Rabban Elazar ben Azaria il va ouvrir sa yeshiva afin de permettre de la diffusion de la Torah dans tous les niveaux, même les plus inférieurs. Si on revient à l'exemple qu'on a donné, l'exemple de la colombe qui se cache entre les rochers, on peut voir ici aussi une allusion à ce qu'on vient de dire, puisque cette colombe qui se cache entre les rochers, ça nous rappelle l'expression qui a été donnée pour dire que les sages, ils ont déclaré que le machar, il voit entre les fentes des murs. Donc on voit que cette colombe qui se cache entre les rochers, entre les fentes des murs, et en réalité, elle a un lien direct avec l'étincelle de machar qui se trouve en chacun de nous, avec le niveau de l'âme qui est enraciné dans l'essence divine, avec l'essence de l'âme. Cette image de la colombe qui se cache entre les rochers, c'est exactement l'image de l'âme qui se cache dans le corps. Et là, comme on l'a dit, on voit que le corps lui-même, Gola, l'exil, lui-même, il nous donne la possibilité de parvenir au dévoilement de l'essence divine. Donc on sait très bien, le rabbi, il a souvent donné cet enseignement au cours des Dvar Malchut, au cours de toutes les parachotes, que dans les temps futurs, l'âme sera nourrie par le corps. On voit très bien que le corps lui-même, il possède une origine plus élevée que l'âme. Et c'est justement ça, à introduire le Aleph dans le mot Gola, c'est révéler l'origine du corps, l'origine de ce corps-là qui est lié directement à l'essence divine. Et quand on parvient à cela, alors on fait de la Gola, de l'exil, on parvient à la Geoula, la délivrance finale. L'idée essentielle que développe le rabbi ici, c'est que l'exil ne contredit pas la délivrance. L'exil, au contraire, il nous permet de dévoiler l'essence divine. Ça, c'est un enseignement qui est très important, puisque c'est l'attitude du rabbi dans toutes ses mifsaïm, dans toutes ses actions, d'expliquer qu'il n'y a rien qui ne doit être épargné. On peut rappeler la déclaration du savant Albert Einstein qui a dit que rien ne se perd, tout se transforme. C'est exactement la même chose. Dans cet exil, tout le sujet de l'exil, tous les sujets, tout ce qui compose cet exil doit être transformé. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre vraiment que l'exil ne contredit pas la délivrance. Au contraire, il nous permet d'y parvenir. Un des exemples les plus expressifs de cet enseignement du Rabbi, c'est le conte de l'Homère. Qu'est-ce qu'on voit dans le conte de l'Homère? On voit qu'on va chercher à raffiner l'âme animale. Il n'est aucunement question d'annuler sa force. L'exil n'exclut pas la délivrance. C'est la même idée. Ça veut dire que l'âme animale, elle va être utilisée, elle va être transformée. On va la rectifier. On va la faire pencher l'âme animale du côté de la sainteté. On va s'habituer aux plaisirs vraiment qui sont divins et abandonner les plaisirs qui sont dénués de divins et qui sont totalement grossiers. Raffiner l'âme animale, ça ne veut pas dire qu'on cherche à l'annuler, à l'exclure de nous-mêmes. Au contraire, l'âme animale, la force de l'âme animale, on doit l'employer et on sait que l'âme animale a une force qui est supérieure. On prend l'exemple dans la chassidoute d'un bœuf, auquel on a attelé une charrue, va faire des sillons qui sont profonds. La force du bœuf, elle permet d'avoir des sillons profonds dans la terre. Et ça, c'est pour exprimer l'idée que l'âme animale, elle possède une force qui est considérable. Et cette force-là, à partir du moment où elle est détournée vers le côté de la sainteté, alors on parvient à faire des sillons profonds. On parvient à changer vraiment notre propre nature, à la rectifier, à la corriger, à la faire pencher du côté de la sainteté et à faire en sorte que la flamme de l'âme animale, elle va s'unir à l'âme divine et on va obtenir une flamme qui est beaucoup plus puissante. Donc on voit que quand on ajoute le Aleph, vraiment le divin, c'est le travail du conte de l'Homère, à la force de l'âme animale, on parvient à la délivrance, puisque le 50e jour de l'Homère, il correspond au dévoilement de la 50e porte de la connaissance, le don de la Torah, et plus particulièrement, on pourrait dire même que c'est le don de la Torah nouvelle qui sera donné par l'Éternel à Machiar et qui va nous la transmettre ensuite, qui va nous enseigner les raisons des commandements. Donc les raisons des commandements, ils correspondent en réalité à ce qui se cache dans la création, à l'essence divine qui est cachée dans toute chose et qu'un juif, il doit s'attacher à révéler. On pourrait aussi donner pour finir l'exemple de la mitzvah de la PA. On voit que qu'un juif il possède un champ, le fait de réserver une petite partie de son champ et de la laisser pour les pauvres, ça, il va accomplir cette mitzvah. Donc cette petite partie du champ qu'un juif il va réserver pour les pauvres, c'est comparable à la lettre Aleph. Quand on introduit le Aleph dans ce monde matériel, qui est représenté ici par le champ, alors on parvient à la Géoula. Et Dieu sait que l'idée du pauvre, c'est une idée qui est très présente dans les enseignements du Rabbi, puisqu'il est écrit même que Machar, il s'assoit parmi les pauvres, que Machar, il est appelé le lépreux de la maison de Rabbi, et qu'il s'assoit parmi les pauvres, ça signifie que ça représente même le souffle divin que Dieu il insuffle à toute la création et qui descend dans ce monde, puisque la Séphira de Malchut, elle est appelée pauvre. Elle est appelée pauvre parce que toute la lumière qu'elle reçoit, elle reçoit des autres séphirotes qui sont au-dessus d'elle. Et cette Séphira de Malchut, donc qui est appelée pauvre, elle-même, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Donc on voit à quel point l'idée d'humilité, l'idée de se considérer vraiment le bitoul, faire un don total de soi-même, d'être pauvre, entre guillemets, ça nous permet ensuite de nous élever à un niveau supérieur. C'est aussi ça, l'idée d'introduire le Aleph dans le Mogola pour parvenir à la délivrance. Enfin, on pourrait faire dire, sous la forme d'un chidouche, que l'idée même de l'image même de Yonah, le prophète Yonah qui est englouti dans un énorme poisson, en réalité, cet énorme poisson, c'est peut-être aussi une allusion au Léviathan des temps messianiques, puisque le Morazaken, il a expliqué que le Léviathan, ça correspond au Tzadikim qui s'occupe des choses profondes de la Torah, que le Léviathan, il représente lui-même l'essence de la Torah, et Yonah qui est enfermé dans ce grand poisson, ça nous rappelle le combat qu'un juif doit mener pour justement délivrer l'essence de son âme, de son exil si on peut dire, parce que tant qu'il ne la révèle pas dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes, alors on peut dire vraiment qu'il est véritablement en exil. La descente de l'âme dans le corps elle a pour but une élévation qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer, puisque de faire descendre l'âme divine dans un corps, comme on l'a dit, c'est précisément au moyen de ce corps qu'on va faire de ce corps-là, du mot Gola, une demeure pour les sens divines, vraiment, le dévoilement de Dieu dans ce monde, avec l'aide de Dieu très prochainement, et qu'on introduira le Aleph qui représente l'essence même de toutes les lettres de la Torah, dans le mot Gola, dans l'exil, et à ce moment-là, l'essence de la Torah, elle apparaîtra aux yeux de chacun, et on assistera et on verra de nos yeux une terre nouvelle, un ciel nouvel et une Torah nouvelle, Bezrat Hashem, très bientôt et de nos jours. Shabbat Shalom, au Mevorach.